a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Ihr habt sich verliebt in ein Jüngel, ein Schein, um nach Ken zu ihm nicht kommen. Le premier travail que le patron me confiait lorsque j'arrivais le matin était de sortir son pot de chambre. Comme vous le voyez, on a beau être un schnorrer, on trouve toujours le moyen d'exploiter quelqu'un et de singer les manières des bourgeois. À cette époque, il n'existait ni toilette ni salle de bain dans les maisons. Même l'eau courante était très rare. Que pouvait dès lors faire un gosse de 11 ans sinon obéir? Ma première corvée exécutée, je prenais le balai et m'efforçais de dépoussiérer les deux pièces de la maison où la famille dormait entassée. Il n'y avait au sol ni parquet, ni ciment, uniquement de la terre battue. Dans l'atelier, dans un petit coin réservé à la cuisine, se trouvait un poêle en fer sur lequel la famille faisait cuire ses repas et préparait le charbon de bois destiné au fer à repasser qui n'était pas électrique, bien entendu. Il fallait introduire le combustible dans le fer et souffler pour maintenir les braises allumées afin qu'il chauffe. Mon travail suivant consistait donc à souffler, mais mes poumons n'étaient pas encore développés comme ceux d'un adulte et mes efforts s'avéraient tout à fait insignifiants. Ensuite, j'allais au puits qui se trouvait 50 mètres plus bas pour tirer de l'eau. Le lecteur est en droit de se demander ce que tous ces travaux avaient à voir avec le métier de tailleur. Eh bien, en ces temps-là, il en allait ainsi. C'est seulement une fois toutes ces tâches accomplies que j'avais accès à une aiguille, et encore. On me confiait plus volontiers le couteau, afin de découdre les vieux vêtements en évitant soigneusement de les entailler, puis la charge d'en nettoyer les fils et de les repasser. L'aiguille représentait déjà un stade plus avancé du véritable apprentissage. Au départ, je devais simuler le geste avec un morceau de tissu et une aiguille sans fil piquée à travers l'étoffe. On appelait ça « saisir l'aiguille ». Je ne vais pas énumérer et détailler l'ensemble des opérations auxquelles il a fallu m'initier pour m'apprendre le métier de tailleur. Pour devenir un bon artisan, j'ai parcouru une route aussi longue que la liste de mes patrons, voire un peu plus longue. Je suis resté moins d'un an chez mon premier tailleur. Il y avait à Teltz une dizaine de tailleurs, parmi lesquels de très bons, de moyens et de franchement mauvais. Ils portaient tous, surtout les moins talentueux, des sobriquets. Mon deuxième employeur était petit. Il s'était surtout développé dans le sens de la largeur. C'était encore un tailleur bon marché, mais il ne cousait que des vêtements neufs. Sa clientèle était composée de gens plutôt modestes ou de paysans qui venaient de la campagne environnante. Il est d'usage qu'avant d'exécuter une commande, un tailleur prenne les mesures de son client. Mais lui se contentait de le jauger attentivement, de le photographier du regard. Et c'était probablement cette photographie mémorisée qui garantissait l'exactitude de son ouvrage. Malheureusement, quand on coupe un tissu au jugé, il arrive parfois que le résultat soit inattendu. Dans une situation semblable, le tailleur affirmait au client que le tissu rétrécirait si l'habit était trop large, ou au contraire qu'il s'étirerait s'il lui arrivait d'être trop serré. Son travail était par ailleurs très grossier, exécuté à grands points pour gagner du temps, et les finitions bâclées à la machine, là où elles auraient exigé d'être délicatement piquées à la main. Mon homme avait trois filles massives comme des ours qui dépassaient leur père de plusieurs têtes. Pour ce qui était de leur largeur, ils n'avaient pas à en rougir non plus. Elles ont attendu fort longtemps avant de se marier. C'est chez mon deuxième patron que j'ai gagné mes premiers letas, la monnaie lituanienne. Malgré la modestie de la somme, je les amenais fièrement à ma mère, car cette rentrée nous était très utile. Ma première paye suffisait à acheter du pain et du sucre pour toute la famille. Je quittais ce patron pour un autre et en changeais encore souvent. À 14 ans, je gagnais pratiquement le salaire d'un adulte. J'étais devenu le soutien de famille, Der Bräutgeber. Malgré mon jeune âge, j'étais un travailleur qui ne regardait pas sa montre et restait à l'ouvrage tard dans la nuit. D'un patron à l'autre, je finis par atterrir chez un employeur dont on peut dire qu'il était moderne pour l'époque. Dans son atelier travaillaient de nombreux ouvriers. Il n'était pas, à proprement parler, un bon tailleur, mais il avait compris qu'en fabriquant tout à la main, il ne parviendrait pas à gagner sa vie convenablement. Certes, il n'était pas dupe et se moquait de savoir s'il faisait du beau travail. La seule chose qui comptait à ses yeux était de savoir combien la tâche exécutée lui rapportait. Il habillait les paysans riches et ceux qui avaient quelques moyens. Ce n'était pas encore de la confection au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il en avait pris la direction pour le montage et il était le tailleur le plus riche de la ville. Il habitait une très belle maison qu'il possédait, entourée d'un grand verger dont les pruniers donnaient des fruits d'une taille et d'un goût que je n'ai plus jamais retrouvé depuis. Quand on franchissait le portail, une longue allée bordée de rosiers de part et d'autre conduisait à une magnifique véranda. La maison se composait d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage et comportait de nombreuses pièces. Le patron avait été un camarade de mon père. Il venait autrefois chez nous et mon père le fréquentait à la belle époque. Cette demeure bouillonnait comme une marmite. Grand luxe en ce temps-là, une radio émettait toute la journée, diffusant des nouvelles et de la musique dans le salon où des fauteuils attendaient les clients. Nous n'avions pas de radio à la maison. C'est par ce poste qu'en 1934 ou 1935, j'entendis pour la première fois les aboiements de Hitler contre les Juifs. Nous n'étions qu'à 60 km de l'Allemagne et comprenions parfaitement l'allemand. Un va-et-vient permanent animait cette maison, et quand la nuit tombait, on s'y retrouvait encore pour jouer aux cartes, comme l'avait fait mon père, au temps où il y avait ses habitudes. La fête se prolongeait tard dans la nuit. Il me semblait que c'était la belle vie, et qu'on s'y amusait. Les familiers des soirées buvaient et mangeaient des canards rôtis et bien d'autres choses. De tous mes patrons, il était celui dont la maison avait les mœurs les plus cosmopolites et laïques. Je n'étais qu'un observateur, travaillant là comme les autres ouvriers. Parmi ceux-ci se trouvaient deux Lituaniens, ce qui était plutôt rare chez les tailleurs juifs. Avec le temps, J'étais devenu un adulte et je finis par quitter mon patron bien-aimé. Cependant, je continuais à lui rendre visite pour le saluer, car il avait fait preuve à mon égard d'une gentillesse tout à fait exceptionnelle, soit par compassion pour notre situation familiale, dont il était d'autant plus conscient qu'il avait été l'ami de mon père, soit simplement par loyauté envers mon père. Il faut dire que je n'ai jamais été renvoyé par aucun de mes patrons. C'était moi qui partais de mon propre gré au moment où je le décidais. Selon une expression yiddish qui semble façonnée sur mesure pour les tailleurs, j'avais des épingles dans les fesses. J'avais la bougeotte. Il y avait plusieurs explications à cela. Tout d'abord, je voulais toujours me perfectionner, apprendre le métier à fond. Et puis je cherchais à gagner davantage d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille.
Dort wo großen Sehnen nasser steht a Kränze vertracht gehen Mädler ziehen Wasser wie die Ämmer alle Nacht gehen Mädler ziehen Wasser wie die Ämmer alle Nacht. Und der Sohn wie weiße Bären wachsen täglich in großen Sod und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot und von weitem Schein von Stern tanzen Jaten in a Rot. Von die Steppes Windler blosen und a Feierruder brennt, gehen Mädler auf die Großen, wie die Äler in die Hand. Gehen Mädler auf die Großen, wie die Ämmer in die Hand. Wertle wohne blass und blasser, geht's beugt men in der Nacht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a Kränze vertracht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a Kränze vertracht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a Kränze vertracht.
Die erste Arbeit meine ist gewesen, komme ich in der Früh, er sollte mir entschuldigen, ein Restaurant in dem Nachttop. Weil in die meisten Teil der Häuser seien damals noch nicht gewesen, keine sanitären Einrichtungen. Und auch nicht kein Wasser in Stub. Das erledigt, habe ich sie genommen zum Besim. Und diese Kern ist gern die Stub. Ich möchte das Ruf an Stub, weil kein Dillen seine nicht gewinnt. Nicht in Atelier und nicht im zweiten Zimmer, wo sie pflegen, schlafen, einer auf dem anderen. Im Winkel in Atelier ist gestanden die Kirch. Da ist gestanden ein kleiner eiserner Reifen, auf welchem pflegt kochen. Und euch machen Kellen zum Pressen, weil der Eisen zum Pressen seine nicht gewöhnt auf Elektre, nur auf Kellen. In das Eisen legt man rein die Kellen und mir bloß Geseder. Es soll sein heiß. Das ist euch gewöhnt meine Arbeit. Nur zu 11 Jahren ist mir noch ein knapper Bloser. Man hat noch nicht so viel Luft zum Blasen. Meine weiterdicke Arbeit ist bestanden zum Bringen Wasser vom Brunnen. Wollt ihr doch mir fragen, was die Arbeit ausgerechnete Hecher hat zu tun mit Schneiderei? Nun, heute komme ich zum Messer und ich nehme trennen die alten Sachen, reinigen die nicht und das auspressen. Und jetzt habe ich schon meine richtige Lehre von Schneiderei. Ich nehme ein Stückchen Stoff und eine Nadel und Bambu und ich mache den Monster, als ich nähe und habe die leidige Nadel umbauen. vielleicht doch nicht einschränken alle Einzelheiten von werden als Schneider. Am Molleke Jahren ist die Wege werden lang. Und zu werden ein guter Schneider sehr lang. Bei dem Schneider bin ich nicht geblieben lang. Weniger wie ein Jahr. Im Teil seinen Gewinn erzähntlich Schneiders. Von Ärgere bis gar Gute. Die Ärgere Schneiders haben alle gehört zunehmen. Von dem Schneider bin ich ein Weg zu einem anderen. Ist gewinn ein kleiner in Gewuchs und euch also grob. Ist gewinn ein billiger Schneider. Aber genäht hat nur neue Sachen. Gewöhnlich nimmt der Schneider Europa Moos. Aber hat nur genäht von Kuck mit der Rück. Und da muss schon garantiert seine Arbeit. Seine Kunden, seinen Gewinn, armer Menschen und Pören von Dorf. Aber mit einer Sache ist Gewinn eine Zure. Als man schneit auf dem Eug, ist einmal gut und einmal töges in der Erde. In dieser Lage, als es zu groß, fliegt Sorgen dem Kunden, als es wird sich eintragen. Und als fliegt sein zu klein, hat gesagt, es wird sich eintragen. Die Arbeit ist gewesen sehr proste, alles gemacht auf Maschinen, weil in jener Zeit, ist der meiste Teil von der Arbeit geworden gemacht mit der Hand. Bei der guten Arbeit. Gehat hat drei Töchter wie Birnen, alle mit zwei Köpfen höher von Taten, und alle seine Säge werden versessene Möden. Nur Tage bei ihm habe ich angeheben zu verdienen die ersten paar Liten. Und das gebraucht bei meiner Mutter, und das ist gewesen sehr nützlich. Mein erster Verdienst ist schon gewesen genug auf Brot mit Zucker. Als ich von dem Ballabos bin ich auf Weg zu einem dritten und vierten und so weiter. Zu 14 Jahren bin ich schon gewesen ein Verdiener und mir sagt das ein Brötgeber. Ich bin gewesen sehr arbeitsamer und arbeiten bis sehr spät bei Nacht, bis ich hoffe sich der Klippen bei Schneider, wo es oben gearbeitet als acht Menschen. Ist nicht gewesen von Gott die gute Schneiders, aber hat verstanden, als nähendig mit der Hand und gar seine Arbeit kommen von dem gar nicht abstellen. Hat genäht Verpöring von reichern und mittleren Klasse. Das ist noch nicht gewesen, die Konfektion von Hand. Aber das ist gewesen seine Andeutung auf dem. Dieser Tag gewesen der reichste Schneider von Stott. Geht aus seinem Haus, mit der Sach Zimmern, mit seinem Garten. Der Ballabos ist gewesen mein Vater Sachhaber. Und gekommen bei uns und mein Vater bei sei in die guten Jahren. Bei seinem Stub hat gekocht wie ein Kessel, ein Mensch rein und ein Mensch raus. Und bei Nacht hat man sich gesetzt, spielen in Korten, halbe Nacht. Man hat gelebt und man hat gehudert, gegessen gebrotene Gänselach. Von allen meinen Ballabaten ist da gewesen ein weltliches Stub. Man pflegt Herren Radio und spielen Musik. Gewöhnlich bin gewinnt nur als Zuseher. Ich habe gearbeitet, Punkt wie alle Arbeiter. Und zwischen sie sind ein Neugewinn Litwiner, eine Sache, was ich gewinnt sehr selten bei jedes Schneiders. Wenn ich bin gewohnt, ein größer Bocher, frage ich alle Müller reingehen, sagen einen guten Tag. Ist zu mir gewinnt sehr freundlich. Ich muss auch sagen, als kein einzig Ballabos hat mir abgesagt von der Arbeit. Ich pflege alleine wegen. Nicht gehabt kein Sitzfleisch. Erstens habe ich gesucht, als mehr zu verdienen. Zweitens habe ich gesucht, als ein besseren Schneider zu kennen, guten Fach.
Spielst du mir dem neuen Scherus, ist er rausgekommen? Ich hab sich verliebt in a jinga da scheine, und ich kenn's.